Le psaume 119, verset 11. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bonjour à tous, frères et sœurs, et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, ce sera une étude, je pense, plus brève que les précédentes. C'est d'ailleurs toujours mon objectif, mais quand je présente un sujet qui n'est vraisemblablement pas familier aux autres, c'est difficile de le faire bref, mais je vous assure que c'est mon objectif à chaque instant. L'étude d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Vaincre nos péchés et nos complaisances ». Vaincre nos péchés et nos complaisances. Le mot complaisance vient de la racine du verbe se complaire. On utilise beaucoup cela dans l'esprit de prophétie comme la complaisance dans le péché, se complaire dans le péché, c'est-à-dire y prendre plaisir d'une manière prolongée. La complaisance dans le péché. L'esprit de prophétie nous parle beaucoup de cette activité. Ce n'est pas simplement tomber une fois exceptionnellement, c'est une habitude. Et donc, l'objectif de cette étude, c'est de comprendre comment nous pouvons vaincre nos péchés, à savoir nos habitudes, nos mauvaises habitudes, ou encore on pourrait aussi dire nos complaisances. À savoir, c'est le fait de se complaire dans le péché. À l'opposé, nous sommes appelés, par opposition, nous sommes appelés à nous complaire dans la justice. Et donc, le but de cette étude, c'est d'explorer la parole de Dieu, et aussi de comprendre et d'arriver à cerner le rôle salvateur de cette parole. Le rôle salvateur est crucial de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous présenter cette question pour pouvoir déclencher notre étude, pour qu'elle ait une sorte d'intérêt pour vous comme pour moi, et ainsi pour nous tous ensemble. À savoir, c'est celle-ci, avez-vous des difficultés à surmonter vos mauvaises habitudes? Avez-vous des difficultés à surmonter vos mauvaises habitudes? Ou, comme on pourrait dire, avez-vous des difficultés à résister à certaines tentations? Et cela, par conséquent, vous avez vous-même formé où nous avons nous-mêmes formé de mauvaises habitudes. Avons-nous ces difficultés-là? Il faut que nous puissions arriver à ériger un portrait fidèle de nous-mêmes, bien que ce soit la dernière des choses que parfois nous désirions vraiment faire. Avons-nous des difficultés à résister à la tentation? Si oui, il faut que nous puissions mettre le doigt dessus et y donner un nom. Et frères et sœurs, le fait est que la raison de nos problèmes dans ce sens se trouve souvent dans le fait que nous n'offrons pas même de résistance à la tentation. Quelle est la raison de nos difficultés et le fait que nous avons nos péchés et nos complaisances, c'est que nous n'offrons peut-être pas de résistance à la tentation, à savoir, c'est parce que nous ne sommes même pas armés pour lui faire face. Même pas armés, c'est comme si vous avez un ennemi, il vient vous voir, vous êtes dans votre tranchée, vous n'avez rien à lui offrir, aucune résistance, il n'a aucun effort à faire. Nos mauvaises habitudes, il se peut qu'elles viennent de là. Et quel est l'exemple, frères et sœurs, de Jésus face à la tentation? Parce que la tentation, tout homme sur cette terre est objet, fait l'objet, pardon, de la tentation. Tout homme est assailli par la tentation. Mais le caractère de chaque homme est défini, et ce qui caractérise chaque homme, c'est ce qu'il fait par rapport à la tentation. Comment est-ce qu'il réagit à la tentation? Et donc, nous voulons d'abord nous poser la question, comment est-ce que je réagis? Et si je ne réagis pas bien, comment puis-je réagir comme il se doit? Et donc, nous avons, quel est l'exemple de Jésus face à la tentation? Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 11. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons brièvement lire le début pour nous remettre en phase ici avec l'Esprit de Dieu, avec l'exemple de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3, tout d'abord, nous lisons. Et donc au verset 1, nous apprenons que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, verset 2, et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, donc ce n'est pas étonnant. Et verset 3, et s'étant approché de lui, le tentateur, à savoir le diable, Satan, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des... Voilà, ce fut la première tentation. Elle ne nous semble pas très tentante pour nous, mais c'est parce que nous ne réfléchissons pas assez loin pour arriver à discerner la similitude, la similarité entre l'expérience que Jésus a faite et celle que nous faisons régulièrement, quotidiennement. Donc, je ne vais pas aller là-dedans parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais il suffit de dire. Je me contenterai de dire ici que l'esprit de prophétie met en avant que ces trois tentations représentent et constituent l'ensemble des tentations auxquelles l'humanité est confrontée depuis le début de la chute jusqu'à nos jours actuels et présents. Et donc, il fut tenté de faire quelque chose pour subvenir à ses propres besoins. C'était la tentation sur l'appétit. Il avait extrêmement faim. Le diable le tenta sur l'appétit. Ensuite, nous avons la deuxième tentation qui était où le diable tenta Jésus de se jeter du haut du temple, ce qui était la tentation à la présomption. Le diable aussi tente l'homme, et notamment le chrétien, à la présomption, à savoir, c'est tout de grâce, il n'y a pas besoin de faire les œuvres, Dieu va me sauver par sa grâce, et donc le diable tente, oh, il y a tellement de grâce, regarde, jette-toi, la grâce de Dieu, elle est si abondante, c'est la tentation à la présomption. La Bible dit, ne tente pas l'Éternel ton Dieu. C'est ce que le diable faisait ici, de demander et tenter Jésus de tenter le Père. De tenter Dieu. C'était la deuxième tentation. Et la troisième fut le moment où le diable mena Jésus sur une montagne fort haute. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant tu m'adores. C'était la tentation à l'amour du monde et des choses du monde et à adorer le monde. Comme c'est marqué, je crois, dans 1 Jean chapitre 2, où il est écrit que n'aimez pas le monde, disait l'apôtre Jean. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'était l'orgueil de la vie que le diable présentait à Satan, l'amour du monde. Et donc, ces tentations, l'esprit de prophétie nous dit, englobent toutes celles auxquelles nous sommes nous-mêmes confrontés. Elles sont l'incarnation de toutes les autres tentations. Ces trois types de tentations-là. Et donc, ce sur quoi nous voulons nous pencher ici, c'est quel était l'exemple de Jésus face à la tentation. C'était cela. et nous voulons pouvoir y répondre maintenant. Quel était son exemple? Pour que je puisse savoir si moi je n'ai pas réagi proprement et comme il faut, comment puis-je réagir proprement et comme il faut? Jésus, en réponse à la première tentation, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, verset 7, il répondit à la deuxième tentation, où quand le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il lui cita la parole de Dieu. C'était bien. Le diable a monté le niveau de cette tentation en disant, voilà, il est écrit ceci quand même. Et donc aujourd'hui, le diable peut peut-être vous dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, c'est le don de Dieu. Imagine un peu tout ce que Dieu fait, jette-toi. Tentation à la présomption. De tenter Dieu. De provoquer Dieu. De provoquer Dieu à verser le sang de Jésus pour mes péchés. Et que fit Jésus à une telle tentation? Jésus lui dit, ah, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ensuite, le diable revint, cette fois-ci avec le summum de la tentation qu'il put présenter au Fils de Dieu. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses en lui montrant tous les royaumes et toute leur gloire. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Que dit Jésus? Comment Jésus réagit-il à cette tentation? Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent et le servirent. Comment est-ce que Jésus a vaincu ses péchés potentiels? Nous avons des péchés réels, Jésus avait des péchés potentiels, il n'a pas cédé, donc il n'a pas péché. Vous comprenez? Mais il avait les tentations de la chair humaine pécheresse, incité et attisé par l'activité directe du diable lui-même, mais il n'a pas cédé, il n'a pas péché. Il est resté parfait et nous a ainsi donné un exemple parfait d'une foi parfaite et d'un accrochement exemplaire à la parole de Dieu et d'un attachement aussi exemplaire à la parole de Dieu. Donc, quel était l'exemple de Jésus face à la tentation? Nous venons de le voir. Jésus a répondu à la tentation en citant la parole de Dieu. Et donc, je voulais vous demander, frères et sœurs, c'est un peu une question rhétorique, mais qui ne manquera pas certainement de toutefois provoquer notre réflexion. Est-ce possible que nous échouons dans nos combats, parce que nos réponses et nos réactions sont différentes de celles qui constituèrent l'exemple que Jésus nous a laissé. Est-ce que nous échouons parce que nous réagissons et nous répondons différemment à la tentation de la manière dont Jésus a répondu à la tentation, à savoir avec la parole de Dieu et en citant la parole de Dieu? Est-ce que c'est possible que ça soit cela? Le cœur du problème. Parce que nous lisons que Jésus a répondu par « il est écrit » et que comme issu de son entretien avec le tentateur, verset 11, « le diable le laissa et les anges vinrent ». Est-ce possible aussi que si nous résistons à la tentation comme cela, le diable nous laissera et que les anges viendront à nous pour nous servir, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous encourager? Et est-ce possible que nous nous privions de cette activité des anges si nous manquons de suivre cet exemple de Jésus face à la tentation? Est-ce possible? Ici, j'aimerais lire cette brève citation de l'esprit de prophétie. Ici, aujourd'hui, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Mais juste cette brève citation de l'esprit de prophétie qui me revenue à l'esprit, que j'aimerais vous partager, qui se trouve dans Message choisi, volume 1, la page 110 et paragraphe 2, où il y a ces deux phrases brèves, ces deux brèves phrases qui disent, en parlant de ce conflit de Jésus avec le diable, après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, dans ce conflit, Jésus n'a même pas choisi ses propres mots, il s'appuya sur « il est écrit ». Vous imaginez un peu que dans l'exemple que Jésus nous a donné, que lui étant le Fils de Dieu, Sauveur, Seigneur, Maître, tout ce que vous voulez, lui, dans cet exemple qu'il nous a laissé, n'a même pas choisi ses propres mots, afin de vaincre et de résister à la tentation. Parce que rappelez-vous, Jésus était affaibli par ses 40 jours de jeûne, étant dans notre chair de péché, venant, pour ainsi dire, bien à notre niveau de notre grande faiblesse morale. Donc Jésus s'est complètement affaibli pour vraiment se souvenir. Il était déjà dans notre chair de péché, mais vraiment, il avait les capacités spirituelles d'un homme né de nouveau, mais il a ajouté à cela de s'être soumis à ce terrible jeûne pour vraiment être au plus bas que on ne puisse pas être plus bas que lui dans nos capacités et dans notre discernement et dans notre conscience de notre entourage. Et dans cette grande faiblesse, il n'a même pas utilisé ses propres mots. Et donc, si Jésus lui-même n'osa pas choisir ses propres mots pour répondre aux tentations de l'ennemi, quelle chance aurons-nous si nous n'avons pas une emprise ferme sur la parole de Dieu dans nos combats contre la chair? Je répète, si lui-même, dans cette tentation, il n'a même pas choisi ses propres mots, même pas il n'a choisi, il a formulé ses propres arguments, et qu'il a dépendu ainsi d'un « il est écrit », qui n'était pas sans l'argumentation, mais l'argumentation qui fut déjà écrite avant même sa naissance, eh bien, si lui, il a agi comme cela, et répondu comme cela, quelle chance aurons-nous si, nous qui sommes pécheurs, nous n'avons pas une emprise ferme sur la parole de Dieu dans nos combats contre la chair, le monde et le diable dans ces derniers jours où le diable est en colère et s'en va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Si Jésus lui-même n'a même pas formulé ses propres mots, quelle chance avons-nous si nous ne suivons pas cet exemple? Si nous dépendons d'idées vagues de ce qui constitue la justice ou ce qui constitue le bien ou le mal, et si nous laissons nous embourber dans des idées vagues de ce qui constitue l'obéissance ou la désobéissance, la rébellion ou la loyauté envers Dieu, si nos idées deviennent vagues, alors le diable il va nous... Allez, c'est terminé. Ça ne va même pas durer une seconde, quoi. Parce que nous arrivons, il arrive, nous sommes dans la tranchée, nous tournons les pouces comme cela, et le diable lui dit, je n'ai rien à faire. Allez, c'est terminé. Il nous a vaincus. La tentation n'a même a duré une fraction de seconde. Nous avons cédé. Et donc, quel est le conseil que Jésus nous donne par son exemple? Parce qu'ici, nous voyons son exemple, et je pourrais lire de nombreuses déclarations ici, mais cela prend beaucoup de temps, vous savez, de préparer des déclarations. Elles ne sont pas très dignes de foi dans les livres français. Ça me prend beaucoup de temps. Mais donc, nous allons nous concentrer nous allons nous concentrer sur la réponse à cette question à travers la simple parole de Dieu. Parce que c'est cela que Jésus a employé dans sa tentation. Parce que si vous avez des longues phrases interminables, en réalité, vous n'avez vraiment pas de puissance. La parole de Dieu nous a été donnée pour vraiment couper entre ces tentations. Mais si nous essayons de nous rappeler vaguement de ce que l'esprit de prophétie dit, ça va être très problématique. Surtout de nos jours ici où notre mémoire a tendance à t'enflancher. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette parole pour que nous puissions l'utiliser aux mêmes fins que Jésus l'utilisa. Je répète notre question. Quel est le conseil que Jésus nous donne par son exemple? Quel est le conseil qui ressort de son exemple? C'est le principe qui était dans notre lecture biblique que nous trouvons dans le psaume 119, on va commencer par le verset 9 et ensuite le verset 11. Donc, que cela ne vous rebute pas, hein, il s'agit du jeune homme, mais c'est tout aussi applicable à la jeune femme ou à la femme âgée dans sa cinquantaine ou à la femme très âgée ou peu importe, c'est applicable au jeune homme, au vieil homme, à la jeune femme, à la vieille femme. Ce principe est large. Le psaume 119, versets 9 et 11, je lis. Quel est le conseil qui ressort de cet exemple de Jésus? Il est ici écrit. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Verset 11. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que je serre la parole dans mon cœur comme cela? La parole de Dieu? Vous me direz, afin de ne pas pécher contre Dieu. Oui, mais comment? Afin que quand je l'esterai dans mon cœur et que je suis tenté, que je puisse la ressortir. Ce n'est pas juste pour qu'elle prenne la poussière là dans ma mémoire, ça ne sert à rien ça. Il faut que je puisse la ressortir. Serrer la parole dans mon cœur, à quoi cela est-il équivalent? C'est obtenir une formation de combat. C'est ça que cela veut dire. C'est pas juste pour avoir des informations. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Dieu me donne sa parole pour que je la serre dans mon cœur, afin que quand le combat se présente, je puisse la sortir de son fourreau. Parce que nous disons, comme nous allons le voir, que la parole est une épée. Alors c'est très beau, nous faisons des merveilleuses peintures et des illustrations faites sur, vous savez, Photoshop. Mais après, il n'y a plus personne quand il faut résister. Et moi-même, je dois admettre que cela a souvent été le cas. Parce que c'est très poétique, mais quand il faut agir et mettre en pratique ce principe qui ressort de l'illustration, de l'exemple de Jésus, alors il n'y a plus personne. C'est là que nous voulons, frères et sœurs, pouvoir faire la différence et mettre en pratique le conseil de Jésus. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Le jeune homme se demande, le jeune homme a beaucoup de problèmes, comme le vieil homme, comme la jeune femme, comme la femme légèrement âgée. Tous ont des problèmes, tous. Irrespectivement de leur âge, de leur sexe, de leur race, de leur culture. Tous ont des problèmes, et ce problème, c'est le péché, à savoir quoi? Le problème, ce n'est pas juste le péché, le problème, c'est la tentation au péché. Et donc, si nous coupons court au début de ce trajet, alors nous coupons court au péché dans notre vie. Vous voyez? Si vous coupez la chaîne commerciale à sa racine, si l'agriculteur meurt, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Et donc, si nous coupons le péché à sa racine, au niveau de la tentation, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commercialisation. Il n'y a rien. Aucune distribution. Parce que nous, quand nous achetons le péché en cédant à la tentation, après nous allons le distribuer. Nous serons un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Notre atmosphère fait ressortir une odeur de putréfaction. Les hommes le sentent, frères et sœurs. Les hommes le sentent. Nous le sentons nous-mêmes, mais les hommes le sentent souvent encore mieux. J'allais dire encore pire. Ce n'est pas français. Mais vous comprenez l'idée. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions être pragmatiques. Soyons pragmatiques et explorons des exemples pratiques de passages bibliques et de versets que nous pouvons et que nous devrions utiliser dans la tentation afin de la vaincre et de mettre un terme à nos complaisances dans le péché qui sont elles-mêmes le fruit de notre manque de résistance. On pourrait même dire de notre absence de résistance parce qu'il y a des fois que nous ne résistons même pas. Et c'est cela qui constitue nos mauvaises habitudes et qui font qu'elles sont tant ancrées, c'est qu'il y ait si peu de résistance. À savoir, parfois, absolument pas de résistance. Soyons pragmatiques. Explorons des exemples pratiques. Et donc là, frères et sœurs, ce que je vous propose, c'est j'ai listé, je ne sais pas si on dit ça en français, j'ai fait une liste de 4 points, qui sont 4 tentations. Alors, si vous n'arrivez pas à vous identifier, à vous reconnaître dans ces tentations, je suis navré. Mais dans ce cas, si c'est votre cas, que vous n'arrivez pas à vous y reconnaître, qu'elles ne vous sont pas particulièrement familières, alors je vous invite à voir en quoi les principes qui ressortent des solutions à ces tentations, en quoi vous pouvez mettre en pratique et comment vous pouvez appliquer vous-même ces principes, à savoir de trouver dans la parole de Dieu des passages et des armes, parce que c'est ça que c'est, des armes qui puissent être appropriées à vos tentations particulières, parce que nous avons tous des faiblesses et ces faiblesses sont issues de notre accoutumance réagir d'une certaine manière à un certain type de tentation, ce qui va provoquer un certain type de péché, ce qui va produire un certain type de mauvaise habitude. J'espère que vous avez suivi. Donc, sans plus tarder, voilà les exemples pratiques que j'ai voulu faire ressortir dans notre étude. Pour pouvoir, comme je le disais, pour pouvoir, ce seraient des passages bibliques et des versets que nous pouvons et que nous devrions, pas que nous pouvons seulement, mais que nous devrions utiliser dans la tentation. Pourquoi ? Afin de vaincre la tentation et de mettre un terme à nos complaisances dans le péché qui produisent ces mauvaises habitudes qui elles-mêmes forment un mauvais caractère. Donc si nous mettons fin à nos mauvaises habitudes, en apprenant à résister aux tentations qui les génèrent, alors nous pourrons former de bonnes habitudes et former par la suite et par conséquent un bon caractère. Quel caractère? Le caractère de celui qui résista à la tentation en ne choisissant même pas ses propres mots. À savoir qui? Jésus. La première tentation que j'ai énumérée, c'est la tentation de regarder des choses vaines, viles, impures, impies. Êtes-vous tenté comme cela? Tenté de regarder des choses vaines, viles, impures, impies. Que devrions-nous faire, frères et sœurs? Que devrions-nous faire pour faire face à cette gigantesque et monstrueuse tentation des derniers jours? À quelle ancre devrions-nous nous agripper pour résister à la tentation de regarder des choses vaines, viles, impures, impies? Réfléchissez, frères et sœurs, si cela représente bien cette description, les choses que nous sommes tentés de regarder en ces derniers jours. Est-ce que c'est juste irréel ce que je dis? Ou est-ce que c'est pragmatique? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est fidèle à la réalité? Quelles sont les armes que Dieu place en notre possession pour résister à ces choses-là? Ce n'est pas juste de dire, voilà, ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez juste créer d'autres pharisiens qui vont eux-mêmes produire des pharisiens en retour, qui seront tous aussi bons pour la GN. Ils ne seront pas bons pour résister, ils seront juste bons pour répéter des règles qu'ils ne savent même pas eux-mêmes obéir, auxquelles ils ne savent même pas eux-mêmes obéir. Parce que rappelez-vous, Jésus, il disait, ils sont assis dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Jésus, il disait, ils disent des choses bonnes, mais ils ne les font même pas. Ils disent aux hommes de soulever ces gros fardeaux, mais ils ne vont même pas les bouger du petit doigt. Donc, vous savez, les Juifs, notamment les pharisiens, savaient définir des lois, mais ils savaient répéter certaines lois de Dieu, bien qu'ils ajoutaient aussi certaines de leurs propres lois, que Jésus appelait des traditions, il savait quand même répéter certaines des lois de Dieu. Jésus disait, il y a des choses qui vous dites qu'il faudrait que vous les fassiez, mais alors ne suivez pas leur exemple. Suivez quel exemple? Suivez l'exemple de Jésus. Lequel est quoi? Lequel est la parole de Dieu? Lequel a lui-même décider de ne pas choisir ses propres mots, mais de s'appuyer sur la parole qu'il avait lui-même prononcée avant d'être incarné dans la terre. Bref, quelle est cette arme que Dieu nous donne pour résister à cette tentation monstrueuse, gargantuesque, je dirais même, des derniers jours? Allez avec moi dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4. Verset 8, où il est écrit: au reste frère, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Que toutes ces choses occupent vos pensées. Pensez, quelle est l'arme que Dieu place entre nos mains, frères et sœurs? Quelle est la, quelle est, ici, vous avez une description qui est éducative, je pense qu'on dit ça, éducative ou éducatrice, et qui aussi est une arme. Quelles sont ces choses qui devraient occuper nos pensées, ces choses qui sont véritables, ces choses qui sont honnêtes, qui sont justes, qui sont pures. Et là, quand vous arrivez à, déjà, regardez, véritable, d'accord, vous dites, c'est vrai. Honnête, vous dites, bon, c'est honnête. Après, juste, c'est pas trop juste. Après, toutes celles qui sont pures, bof, là, vous avez éliminé 99% des choses qui étaient véritables et honnêtes. Elles sont vraies, elles sont honnêtes, mais ouf, elles sont pas pures. Elles ne sont pas pures. Elles ne sont pas pures. Ensuite, si le peu qui vous reste là, dans votre lot ici, vous avez dit pur, vous avez éliminé 99%, peut-être pas, 95%. Ça va dépendre des choses que vous avez devant les yeux. Ensuite, toutes ces choses, toutes celles qui sont aimables. Aimables. Est-ce qu'elles sont aimables? Elles sont peut-être véritables. Elles sont peut-être honnêtes. Bon, juste, je ne suis pas sûr. Pure, bon, c'est peu probable. Aimables, est-ce qu'elles sont aimables? Est-ce qu'elles sont aimables aux yeux de Dieu? Pas aux yeux de mes yeux, pas à mes yeux. Tout peut être aimable aux yeux de la chair. Non, aimable au sens divin de la vérité, de ce qui est aimable. Est-ce qu'elles sont aimables à Dieu? Est-ce que dans ce sens-là, dans le sens de la suprême aimabilité, on pourrait dire, est-ce qu'elles sont aimables? En anglais, c'est lovely. Est-ce, dans le sens de agréable. Dans le sens divin de agréable. Pas dans le sens de ce qui agrée à la chair. Non. Est-ce qu'elles sont aimables à Dieu? Et là, vous dites, vous avez tout, vous avez presque tout rayé de la carte. Vous comprenez? Et après, comme si ça, ce n'était pas suffisant, pardon, toutes celles qui sont de bonne réputation. Est-ce que c'est de bonne réputation? Non, c'est juste des commérages. Qui étaient peut-être véritables, honnêtes, qui n'étaient certainement pas justes, qui n'étaient pas purs, qui ne sont pas aimables et qui sont, pour mettre la cerise sur le gâteau, définitivement pas de bonne réputation. Et où il y a quelques vertus. Si là, vous savez, c'est le processus d'élimination. S'il y a quelque chose qui est resté après cela, maintenant, Dieu dit, et où il y a quelques vertus, donc il faut que ça soit des choses vertueuses. Qu'est-ce qui reste, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui reste? Choses vertueuses et qui sont dignes de louange. Que toutes ces choses occupent vos pensées. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va plus regarder là. Réfléchissez, frères et sœurs. Réfléchissons. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Et aussi contradictoire que cela puisse paraître, voici l'arme que Dieu place entre nos mains. Il nous dit, voilà, c'est l'arme. Et je dis, mais Dieu, cette arme, elle est contraire à tout ce que je suis. Il me dit, tu vas être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 31? Voici l'alliance éternelle que je vais faire avec ce peuple. Je vais mettre ma loi dans leur cœur. Je crois que c'est je vais mettre ma loi à l'intérieur d'eux et je vais l'écrire sur les tables de leur cœur. Comment est-ce que Dieu fait cela? Sa loi, qui le transcrypte, comme dit l'esprit de prophétie, de son caractère. La parole de Dieu, qui représente la volonté de Dieu. Sa loi et sa parole sont indissociables. Et donc, pour que Dieu inscrive sa loi, est-ce que ça veut juste dire que il va copier les 10 commandements de Exode chapitre 20, je sais pas, quelque part là-dedans. C'est tous les principes qui sont intégrés dans cette loi et qui la développent, par lesquels Dieu va écrire sa loi dans nos cœurs. Et parmi lesquels se trouve cette déclaration de Philippiens chapitre 4, verset 8. Comment est-ce que nous allons résister à cette tentation? En acceptant cette formation. Quelle formation? La formation au combat. Quel combat? Le combat contre la tentation. La tentation à quoi? La tentation au péché. Il n'y a pas de tentation à la justice, ça n'existe pas. Nous sommes tentés au mal ou nous sommes encouragés à bien faire. Dieu, dans sa parole, nous encourage à faire la justice. Le diable, par sa tentation, à travers la chair, le monde et lui-même, nous tente à faire le mal. Ce qui nous mène et qui est la commission du péché. Quelle est une autre déclaration qui correspond directement à ce que nous venons de lire, qui est assez compréhensible, qui est assez exhaustif, mais la parole de Dieu a quand même beaucoup d'autres choses par lesquelles elle s'exprime. Dans le psaume 101, dans le psaume 101, verset 3, nous lisons la version courte de cet élargissement dans Philippiens. Le psaume 101, toujours pour cette première tentation, nous lisons, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgresseurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Qu'est-ce que c'est ?« Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Qu'est-ce qui est mauvais ? Nous l'avons vu. Ce n'est pas tout ce qui n'est pas véritable, c'est tout ce qui n'est pas toutes ces choses-là à la fois. Tout ce qui n'est pas à la fois véritable, honnête, juste, pur, aimable, de bonne réputation, ayant quelques vertus ou étant plutôt vertueux, pas qu'il y ait juste un tout petit peu de vertu et beaucoup de mal, ce n'est pas ça le sens. Quelque chose de vertueux qui soit digne de louange. Ces choses, l'apôtre Paul nous le disait, doivent occuper nos pensées, et tout ce qui est contraire à cela, tout ce qui manque un seul des éléments qui est ici énuméré, est une chose mauvaise. Parce que si c'est véritable, honnête, juste, pur, aimable, mais que ce ne soit pas de bonne réputation, ou que c'est de bonne réputation, aimable, pure, juste, mais que ce soit faux, soit une fiction, alors ça sort. Et cela fait partie des choses mauvaises que le psalmiste disait qu'il ne mettrait pas devant ses yeux. Si c'est injuste, si c'est malhonnête, si c'est faux, si c'est impur, si c'est aimable, désagréable, si ce n'est pas de bonne réputation, si c'est pas vertueux, à savoir vicieux, profane, si ce n'est pas digne de louange, alors c'est mauvais. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça la définition de mauvais dans le cadre de ce que nous mettons devant nos yeux. Vous imaginez ici le grand fossé entre ce qu'il devait faire pour pratiquer cela, le roi David, le psalmiste, et ce que nous sommes appelés à faire pour pratiquer cela, ce principe qui est la version condensée de Philippiens et qui est le principe qui ressort de l'exemple même de Jésus. Rien de mauvais. Voilà l'arme, frères et sœurs, que Dieu met entre nos mains. Je passe à la suite. Je compte sur vous que vous ayez une bonne mémoire pour garder ces choses à l'esprit ici. Parce que je vais passer à autre chose. Et nous avons besoin de prier Dieu. C'est important. C'est important, c'est pour ça que vraiment nous dépendons de l'Esprit, mais aussi dépendons de notre propre choix. Parce que si vraiment nous choisissons dans nos cœurs de faire ici, de nous conformer à ce que Dieu dit, Dieu nous aidera par son Esprit à nous souvenir, et ensuite, quand nous serons confrontés à la tentation, nous aurons un choix devant nous de choisir soit de mettre le bien ou de mettre le mal devant nos yeux. Le psalmiste disait « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». J'ai en haine la conduite des transgresseurs, disait-il, elle ne s'attachera point à moi. Comment est-ce que la conduite des transgresseurs ne s'attachera point à moi, de sorte qu'elle devienne ma conduite par cette activité de mes propres choix, de ne rien mettre délibérément de mauvais devant mes yeux, à travers notamment ces déclarations même là, de la parole de Dieu, dans Philippiens et dans les psaumes. Le psaume 101, verset 3. Je m'arrête là. La deuxième tentation que j'ai énumérée, et sur laquelle nous voulons nous pencher maintenant, c'est... Alors, je m'excuse pour les sœurs qui écoutent cela, ça ne va peut-être pas sembler très familier, parce que la tentation de la femme est différente de celle des hommes, mais Dieu seul sait. Je vous invite à appliquer ce principe comme c'est le plus approprié. La tentation, c'est celle-ci, la tentation de regarder une femme avec convoitise. Qu'est-ce que Dieu nous donne dans sa parole? Quelle est l'arme que Dieu place entre nos mains pour que nous puissions résister à la tentation par cette arme? En suivant l'exemple de Jésus qui, comme nous l'avions lu, n'a pas lui-même choisi ses propres mots pour dans ce conflit contre la tentation, contre le diable. Quel est le « il est écrit » que Dieu met entre mes mains et vos mains et nos mains afin de résister à la tentation et de la vaincre et par conséquent de vaincre des mauvaises habitudes. Parce que c'est ça le vrai problème. Parce que céder à la tentation, une fois juste de manière isolée, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la tentation, le fait de céder à la tentation de manière consécutive, ce qui va former des mauvaises habitudes, qui, elles, à leur tour, vont former un mauvais caractère, et c'est ça que le diable veut. Parce que les mauvais caractères, ce sont ceux qui pêchent. Ceux qui ne sont pas conformes à l'exemple de celui dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude et qui n'a point commis de péché. C'est l'exemple de l'agneau sur la montagne avec les 144 000, n'est-ce pas? Mais nous savons cela, mais des fois nous avons des problèmes un peu cognitifs à mettre en pratique. L'arme. Quelle arme Dieu nous donne? Exode pour l'arme. La formation de combat. L'armure, l'épée. Oui, l'épée, c'est bien, mais en quoi puis-je saisir cette épée, la discerner, la brandir, la prendre dans mes mains? Vous savez, c'est intéressant, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, je regardais, je n'en fais pas la défense, mais je regardais un bon nombre de films et je voyais que j'ai cru comprendre que les armes du temps du Moyen-Âge, ces épées, étaient extrêmement lourdes et que si vous n'aviez pas appris à les manipuler au préalable, le moment viendrait où vous seriez appelé par la nécessité à l'apprendre, vous auriez complètement pas du tout de formation, pas de préparation parce qu'elle serait beaucoup trop lourde, vous n'arrivez pas à la brandir, à la déplacer de gauche à droite et elle vous serait complètement inutile. Donc l'arme en elle-même est bien, elle est utile, elle est forte, elle est puissante, elle peut être d'un grand secours, elle peut vous sauver la vie, mais si vous n'avez pas appris à la manipuler, quand la difficulté vient, vous dites « mais je peux rien faire avec ça, elle est trop lourde ». Et donc c'est pareil avec la parole de Dieu, si nous n'apprenons pas à l'emmagasiner, à la manipuler dans notre esprit, à la mettre en confrontation directe avec des fausses doctrines et avec les tentations directes de l'ennemi. Au bout d'un moment, nous la laissons poser, nous disons, elle ne me sert à rien cette épée. Je ne peux rien faire, elle est trop lourde. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est un peu la même chose. Elle est extrêmement lourde de sens, de capacité, de possibilité de possibilité de convaincre et d'exhorter et de vaincre la tentation, de résister à la tentation, de nous éduquer nous-mêmes, de nous former. Elle a tant de capacités, mais si nous perdons l'habitude de la manipuler, au bout d'un moment, elle devient trop lourde et donc nous la délaissons. Et ensuite, le diable, il nous trouve, mais t'as rien, tu n'as rien, tu n'as même pas de bouclier, pas d'épée, pas d'armure, pas de chapeau, pardon, pas de casque, tu es pieds nus, enfin, tu ne sers à rien, quoi. C'est bon. Vous voyez? Et donc, quelle est l'arme que Dieu place entre nos mains pour résister à cette tentation de regarder une femme avec convoitise? Je lis ici Exode chapitre 20, verset 17. Dieu nous dit, c'est le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la femme. Si vous arrivez ici, dans le feu de l'action, à appliquer un autre élément de ce passage, tant mieux. Mais ici, je veux me concentrer sur « tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Alors, ici, l'erreur que nous pourrions faire, c'est de dire « Oh, Dieu me dit, tu ne fais pas. » Certes, Dieu nous dit qu'il ne veut pas que nous fassions. Mais l'esprit de prophétie nous dit que ce n'est pas... Il nous dit littéralement « il n'y a aucun élément négatif dans cette loi. » Vous y croyez? L'esprit de prophétie nous dit « There is not a negative in this law. » Il n'y a pas un seul élément négatif dans cette loi. Et donc, si ce n'est pas un élément négatif, qu'est-ce que c'est? C'est un élément positif. Et donc, en quoi ce commandement peut-il être vu et compris comme un élément positif? Ça que nous voulons discerner. Est-ce que Dieu est juste en train de me dire « Tu ne fais pas !» C'est ça que Dieu dit? Dites-moi, frères et sœurs, quand vous voyez un parent qui n'a pas trop l'emprise sur lui-même et qui dit à son enfant « Tu ne fais pas ça! Tu ne fais pas ça! Arrête! Arrête !» Est-ce que ce parent vous semble très convaincant? Est-ce que vous avez beaucoup d'espoir pour l'éducation de l'enfant à qui sont adressées ces paroles? Généralement, vous vous dites « Oh là là, il n'a pas compris. » S'il éduque son enfant comme ça, son enfant il va faire exactement la chose qu'il est en train de lui dire de ne pas faire. Et donc, est-ce que vous pensez que Dieu il ferait la chose même que nous, avec notre bon sens, nous disons et nous concluons que nous ne devrions jamais faire de notre vie et que les personnes qui le font sont parfaitement dans l'erreur? Quand même, nous avons une idée un peu pessimiste de Dieu, non? Un peu négative. Mais l'esprit de prophétie nous dit qu'il n'y a pas un seul élément négatif dans cette loi. Donc s'il n'y a pas un seul élément négatif, c'est que tout est positif dans cette loi, à savoir... ce n'est pas une interdiction, mais c'est une promesse. Ah, là, c'est différent. Là, c'est différent, frères et sœurs. C'est là qu'on se réveille, on dit, comment ça? Comment ça, Seigneur? Comment ça, ce n'est pas une interdiction? Bien sûr, oui, Dieu nous met des barrières et c'est pour notre bien, c'est vrai. L'esprit de prophétie dit également ça et c'est un bon sens de conclure cela dans notre lecture de la parole de Dieu. Mais elle nous dit aussi que ce n'est pas un élément négatif ce qui est dit ici. C'est une promesse. Ces 10 paroles, ces 10 commandements sont des promesses. À savoir, elle dit, fais ceci et tu vivras. Et qu'est-ce qui est contenu ici dans ce verset 17 et verset 14 d'ailleurs qui dit, tu ne commettras point adultère. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est « fais pas ça, il faut pas faire ça » Certes, Dieu nous dit qu'il ne faut pas faire ça, mais ce n'est pas l'esprit principal dans cette loi. C'est Dieu nous promet que si nous le suivons, que si nous l'obéirons, si nous l'obéissons, alors nous goûterons des fruits de l'obéissance. Et Dieu nous dit ici « je vais te donner la puissance d'accomplir cette parole ». Cette parole, ce n'est pas juste un commandement, c'est une promesse. C'est un commandement promesse. Ce n'est pas une interdiction, c'est un commandement promesse. Par lequel Dieu nous dit, je te donne la puissance de ne pas commettre l'adultère, de ne pas convoiter la femme de ton prochain, ou sa maison, ou son serviteur, bon aujourd'hui on n'a plus trop d'esclaves, mais ou son bœuf, sa voiture, ou son âne, ou aucune chose qui soit à ton prochain. Tout ce que vous pensez. Voilà l'arme que Dieu place entre nos mains. Il dit, tu ne commettras point adultère. Toi et moi, on a une relation. Toi et moi, nous communions ensemble. Regarde à moi et tu ne commettras point adultère. Réfléchis, pense à Dieu. Pense à Dieu. Combien Dieu est plus important que les passions de cette chair. Il dit, tu ne commettras point. Tu as la puissance. Si tu écoutes ma parole, si tu saisis ma parole sera en toi une puissance pour vaincre le péché et résister à la tentation. Ce qui est synonyme. Voyez, frères et sœurs, que disait Jésus à ce sujet-là? Dans Matthieu chapitre 5, verset 27, qui vient compléter cette pensée. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, Jésus disait, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai formulé cette tentation, la tentation de regarder une femme avec convoitise, à savoir de la regarder en se l'imaginant comme la nôtre. Parce que l'acte sexuel ne devrait avoir lieu que dans les limites du mariage. Et donc, si vous imaginez quelque chose qui a lieu dans le mariage, vous l'imaginez comme si elle vous appartenait. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? C'est tout regard avec une imagination comme si elle vous appartenait. Cela, c'est ce que Jésus appelle regarder avec convoitise ou regarder pour convoiter. Convoiter, c'est vouloir quelque chose qui ne nous appartient pas. La chose même que Ève a faite dans le jardin d'Éden, à savoir, elle a convoité, elle a désiré de manger le fruit qui lui avait été interdit. Donc, le cœur de l'épreuve et de la chute au tout départ de nos premiers parents, c'était sur la convoitise, à savoir le fait de prendre à Dieu, de prendre ce qui ne nous appartient pas. Dieu avait dit, ça ne t'appartient pas, tu peux avoir tout cela, ça c'est pas à toi, ça c'est interdit. Et c'est cette chose qu'elle a faite, et donc elle a échoué à la tentation, elle a cédé à la tentation, et nous en sommes ici aujourd'hui, et nous voulons maintenant réussir face à la tentation. Comment? En refusant de convoiter. Vous voyez? Comme nous avions lu, toutes les choses que nous ne devrions pas faire, si nous désirons les faire et que nous les faisons, c'est céder à la convoitise. Ce sont les choses que Dieu dit, voilà, ces choses sont hors limite, tu ne touches pas. Et si nous allons pour les désirer et pour en jouir, alors nous convoitons et nous tombons dans le péché. Vous voyez, frères et sœurs? Mais Dieu dit, avec la loi, qui n'est pas une interdiction mais une promesse, tu ne commettras point adultère, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Il dit, tu peux, je te donne une puissance. Rappelez-vous ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 28. Vous me direz, mais Victor, ça n'a rien à voir. Mes frères et sœurs, si ça n'a rien à voir, vous et moi, nous ne pouvons pas être sauvés. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus disait, combien de puissance! Jésus s'approchant leur parla aux disciples et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et celui qui a dit cela aux disciples et qui disait, voici, allez, instruisez les nations, j'ai reçu toute puissance. dans le ciel et sur la terre. Allez et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et celui qui était sur la montagne de Sinaï et qui a prononcé ces paroles parmi lesquelles se trouvait, tu ne commettras point adultère. Et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Qu'est-ce que c'était? C'était une promesse à l'homme qu'il pourra, dans la puissance de Dieu et le secours de l'Esprit et la présence de Jésus, faire ce que Ève et Adam n'avaient pas réussi à faire et ont manqué de faire en Éden. Tu ne convoiteras point. Je te dis que cela t'est hors limite. Et maintenant, je te donne une puissance pour obéir à ces limites et rester dans la parfaite volonté de Dieu. Et donc, ça, c'est pour l'adultère, donc ce qui ne nous appartient pas. Et vous me direz, bon, bah, y a des femmes, elles appartiennent à personne. Intéressant, n'est-ce pas? Vous me direz, bon, y a des femmes, elles ne sont pas mariées. Est-ce que... Job, chapitre 31. Job, chapitre 31, répond à cette question parfois peu exprimée même. Job, chapitre 31, verset 1. Job lui-même disait, « J'avais fait un accord avec mes yeux, et comment aurais-je regardé une vierge ?» Donc, Job, ici, nous voyons que dans la parole de Dieu, à travers les paroles de Job, l'action de qui est présentée par Jésus dans ses paroles, qui sont un élargissement du commandement, de ne point regarder une femme pour la convoiter, est élargie à la femme qui n'est pas mariée, qui est décrit ici comme une vierge. Job disait, j'ai fait un accord, littéralement, dans la Bible King James, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Comment regarderais-je une vierge? C'est ça, littéralement. J'ai fait une alliance avec mes yeux. Comment regarderais-je une vierge? Donc, c'est un engagement personnel que l'homme fait et que la parole de Dieu donne la puissance à l'homme de faire avec lui-même et avec Dieu, dans lequel il dit, voilà, je fais une alliance avec moi-même et avec Dieu, devant Dieu, et je dis, je ne regarderai pas une vierge, comment? Pour la convoiter. Vous pouvez regarder une femme et discuter avec une femme sans jamais la convoiter. Apprécier ses qualités, ses vertus, même sa beauté, mais dans un espace de pensée limité simplement à ce qui est juste, honnête, pur, agréable, vertueux, digne de louange, tout cela. Vous comprenez? Vous arrivez ici à cerner comment nous pouvons résister à la tentation tout en restant intelligents et équilibrés. Et j'aimerais ici nous attardions au troisième point et après je passerai le quatrième parce que nous avons écouler notre temps. La troisième tentation que j'ai énumérée, c'est celle de s'attacher aux choses du monde. Parce que si vous résistez à la première tentation, vous résistez à la seconde, et je compte sur les sœurs pour trouver le principe qui puisse s'appliquer à elles d'une manière aussi puissante qu'il s'applique pour les hommes, eh bien, si vous faites cela, vous allez vous retrouver dans un esprit de pensée où le diable va vous tenter avec des choses qui semblent être justifiées, mais qui peuvent être portées à l'excès. À savoir, quand le diable a tenté Jésus, pensez que Jésus lui-même savait qu'il allait être roi des rois et seigneur des seigneurs, couronné. Il était déjà potentiellement, mais qu'il allait être couronné comme ça. Donc il aurait pu se dire, ces choses-là, elles m'appartiennent déjà. C'est quoi la différence? Et donc nous aussi, frères et sœurs, il y a des choses qui sont justes et louables pour nous de posséder, dont Dieu même désire peut-être aussi que nous jouissions des choses de ce monde, mais nous sommes appelés à ne pas nous attacher à ces choses. Et donc, comment est-ce que nous pouvons et comment est-ce que nous pouvons résister à la tentation qui viendra à nous, inévitablement, de résister à cette tentation de nous attacher aux choses du monde, affectueusement, dans nos cœurs. Nous ne faisons rien de mal, il semble. Simplement, dans nos cœurs, nous sommes attachés à nos trésors terrestres. Comment vaincre cette tentation? Parce que si nous résistons à toutes les autres, celle-ci va prendre davantage d'ampleur. Vous comprenez? Parce que si vous résistez à celle que nous avons listée juste avant, celle-ci va prendre de l'ampleur proportionnellement au fait que vous avez éliminé les autres. Donc, le diable va mettre toutes ses cartes sur ce jeu-là. Vous voyez? C'est sérieux ce que je dis, frères et sœurs. Et donc, comment est-ce que je peux résister à la tentation de m'attacher aux choses du monde? Parce que si j'ai résisté à toutes les autres choses, je vais me dire, mais j'ai plus rien ici alors. J'ai plus rien. Je ne peux pas faire ça, ça, ça. Et donc, le diable va nous tenter de faire quelque chose qui peut sembler justifié, cohérent, louable, mais qui peut nous faire perdre notre âme. Quelle est l'arme? L'arme que Dieu place entre nos mains pour faire face à ce dilemme des affections. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Je lis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Quelle est la pensée? Quelle est l'arme? Quelle est la formation? Quel est le mode de pensée que Dieu place sur les tables de notre cœur, par lequel il écrit sa loi et par lequel il inscrit son caractère? Quel fut son caractère? Jésus n'aimait pas le monde, Jésus était affectionné aux choses d'en haut. Et c'est comme cela qu'il pouvait attirer les hommes en haut. Jésus disait, quand moi j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Comment Jésus pouvait-il dire cela? Parce qu'il serait crucifié d'une part, mais parce que lui-même avait l'esprit attaché aux choses d'en haut. Et seul donc, ceux qui ont l'esprit affectionné aux choses d'en haut peuvent attacher les esprits aux choses d'en haut. Et donc, quel est l'appel ici? Lorsque nous sommes tentés de nous affectionner, de nous attacher aux choses d'en bas, à celles de la terre, c'est ceci, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vous direz peut-être, mais je ne me sens pas mort. Mais la Bible me dit que si j'ai fait profession de foi en Dieu, en Christ, je n'ai pas besoin d'un processus. J'y crois et je suis mort. Et donc je suis appelé à comme c'est marqué au verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Dans lesquelles vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elles, mais maintenant vous aussi renoncez à toutes. Et donc, en renonçant à toutes celles-ci, alors cela peut être vrai, ce qui est écrit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez, c'est vrai dans la justification et cela doit aussi être vrai dans notre engagement dans l'œuvre de la sanctification, de telle sorte que nous venons à Dieu. Dieu dit, Seigneur, tu me dis que je suis mort par ma profession de foi, par mon baptême. Maintenant, il faut que je reste mort. Comment fais-je cela? En m'affectionnant aux choses d'en haut. Les choses d'en haut sont écrites aussi en bas, ici, pas dans la terre. Pas dans les films télévisés, pas dans les séries, pas dans toutes ces choses qui sont vaines, viles, impures, impies, profanes. Elles ne sont pas écrites là. Elles sont écrites là. Et en regardant là, nous regardons là. Parce que nous n'avons pas besoin de regarder là, parce qu'il n'y a rien à voir. Parce que ce que nous cherchons à voir est écrit là, pour que nous puissions voir ce qui ne peut pas se voir là. Vous comprenez ? Parce qu'il faut la foi pour voir les choses spirituelles. Quand bien même vous aviez le plus grand télescope qui existe dans le monde, le plus puissant, le plus avancé, le plus poussé, il ne vous sert à rien pour voir l'espace en Orion. Vous ne verrez rien. Parce que les choses spirituelles se voient spirituellement. Et pour les voir spirituellement, il nous faut nous affectionner à ces choses d'en haut, à ces choses spirituelles, à ces choses bibliques, à ces choses pour lesquelles la Bible nous donne des armes, afin que nous puissions les préserver dans notre esprit, que nous puissions serrer dans nos cœurs la parole de Dieu, afin de ne pas pécher contre le Seigneur, pas pécher contre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et donc, cela est aussi vrai dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, mais je vais vous l'épargner. Et pour terminer, abréger notre méditation, j'aimerais que nous nous tournions vers les paroles de Hébreux chapitre 4, verset 12, qui expriment ce que j'avais moi-même cherché à exprimer juste avant. Donc, pourquoi est-ce que nous nous concentrons tant sur la parole de Dieu? J'avais dit que l'un de des titres dont j'avais intitulé cette étude, c'était le rôle salvateur et crucial de la parole. Eh bien, la réponse est ici dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. La parole est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle est comme une épée, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle permet que nous puissions être séparés de nos péchés, séparés de nos passions, que nous puissions régner sur notre corps, que Jésus puisse régner dans notre conscience et que nous puissions avoir l'emprise sur les tentations du diable, du monde et de la chair, les passions de la chair. C'est pour cela qu'il peut être écrit à son sujet qu'elle perce jusqu'à la division de l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles. Vous savez, c'est comme si vous aviez un couteau très puissant pour couper des animaux. C'est ça l'illustration qui nous est ici montrée. C'est que par cette parole, nous pouvons être séparés de nos péchés. Comment ? À la fois en la recevant et à la fois en l'exerçant, en la manipulant, en la brandissant, pour ainsi dire, comme on le fait une épée. Et donc, il nous est donné une épée parce que nous sommes présentés à un combat, ce que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. Donc nous avons un combat, mais ce n'est point un combat selon la chair, quoique nous marchions dans la chair. Quel est donc ce combat ? En effet, nos armes de guerre, ce que nous avons cherché à obtenir dans cette étude, en effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi est-ce que ces armes de guerre sont là? Elles ne sont pas charnelles, dit-on. Elles sont puissante en Dieu, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu est une puissance, elle est vivante, et elle est puissante pour opérer cette division entre l'âme et l'esprit, entre la moelle et la chair, je crois que c'est ce qu'on disait. C'était quoi? Excusez-moi. Entre les jointures et les moelles, en jugeant les pensées, les intentions du cœur. Et donc cette parole, c'est ce qui constitue nos armes de guerre. Elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Quelles forteresses? Les forteresses du péché, les forteresses de la tentation, les forteresses de ce monde, avec ces tentations à voir et regarder les choses profanes, viles, vaines. Des fois, ce n'est juste que vain, mais c'est quand même mauvais. Le psalmiste disait, je ne mettrai rien de mauvais dans nos yeux. Et la parole de Dieu, donc, nous est puissante pour renverser ces forteresses, forteresses du péché, forteresses des passions de la chair, qui mènent à la convoitise, comme nous avons vu, qui mènent à l'amour du monde, comme nous avons vu. Elles sont puissantes, ces armes, qui est la parole de Dieu, pour détruire les raisonnements et tout type de tentation qui s'élève contre la connaissance de Dieu, à savoir qui s'élève devant moi pour me séparer de ma communion avec Dieu. Parce que la parole de Dieu fait équivaloir le mot connaître avec une relation intime avec une personne. Donc connaître Dieu, ce n'est pas juste avoir une connaissance à son sujet, c'est communier avec lui, c'est échanger d'une manière très sur un plan très intime avec lui. Et donc la parole de Dieu nous est donnée pour renverser toute hauteur, toute tentation, toute passion qui tendent à nous séparer de cette communion, de cette connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, parce que nous avions lu dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que les choses qui sont véritables, qui sont honnêtes, qui sont aimables, qui sont pures, qui sont justes, qui sont de bonne réputation, qui aient quelques vertus et qui soient dignes de louange, que ces choses occupent nos pensées, et alors, si nous sommes tant armés de la parole de Dieu pour résister si précisément à la tentation, alors chacune de nos pensées et de nos actions seront amenées captives à l'obéissance de Christ. Et donc, frères et sœurs, puissions-nous aussi, puissions-nous nous emparer de ces armes et les garder. Pas juste de les avoir un peu, ça n'a pas vraiment d'utilité. C'est comme si nous étions en formation de camp de formation, puis ensuite, quand nous sommes précipités dans la guerre, nous abandonnons les armes que nous avons été formés à utiliser. Dans la formation, dans la parole de Dieu, dans l'expérience chrétienne, c'est pour être mis en pratique directement sur le champ de bataille. Nous sommes formés, ensuite envoyés. Former, ensuite envoyer. C'est comme ça que cela fonctionne. Alors que souvent, surtout dans les grandes guerres mondiales, les gens étaient formés, ensuite ils étaient envoyés. Et après, ils devenaient soit morts, soit vétérans. Ce n'est pas comme ça pour nous. Nous sommes formés, ensuite envoyés. Formés, ensuite envoyés. Nous sommes formés, nous apprenons, ensuite nous sommes renvoyés. Quoique nous ne changeons pas d'endroit, mais certainement, nous sommes présentés et nous nous retrouvons face à face et confrontés à des moments, à des expériences dans lesquelles notre foi, notre détermination et notre maîtrise de la parole de Dieu est mise à l'épreuve. Et donc, frères et sœurs, puissions-nous montrer que nous avons appris nos leçons pour que vraiment Dieu puisse être honoré par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. C'est ma prière, que l'on puisse arriver à résister à la tentation de regarder les choses vaines, viles et impures, à celle de regarder une femme avec convoitise et à la tentation de s'attacher aux choses du monde. C'est ma prière que nous puissions nous saisir de nos armes qui ne sont pas charnelles mais spirituelles, afin que nous puissions remporter aussi notre combat. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.